Il n'y a absolument pas une seule réponse. Il n'est pas question de dire que quelqu'un ou un animal est ou n'est pas intelligent. Chacun a des capacités à résoudre certains problèmes qui sont très différentes les unes des autres. Donc, un fort en maths est souvent nul en sport. C'est pas toujours, hein, mais souvent. Voilà, c'est des espèces d'intelligence qui mettent en jeu des capacités du cerveau très différentes les unes des autres. Sachant que tout de même, jusqu'à il y a très peu de temps, on faisait pas de maths, quoi. Et même en remontant pas tellement plus loin en arrière, on parlait pas. Je pense qu'il faut pas perdre de vue que notre système nerveux, qui découle tout de même directement de celui des animaux, il est fait essentiellement pour fuir le tigre quand il arrive et attraper le cochon quand il passe. Et on est fait pour ça. Et enfin, on est fait pour ça. Je prétends pas que quelqu'un nous a dessinés pour ça, mais si on n'était pas capable de réussir dans cette tâche, on serait pas là pour le dire. Voilà. Donc, la base de notre système nerveux, elle a été faite pour ça. Et la parole, c'est une cerise sur le gâteau. Et les mathématiques, c'est une cerise sur la cerise, quoi. Une bonne question, justement, c'est de savoir, vis-à-vis de l'homme, c'est comment la parole a pu venir se greffer sur quelque chose qui, à mon avis, est de base sensorimoteur. Et comment les maths, la science, etc., sont venus se greffer encore par-dessus. Je sais pas, la musique, par exemple, c'est nettement plus proche, me semble-t-il, du sensorimoteur. Et c'est une forme d'intelligence remarquable, quoi. Encore de nature très différente. Et alors, si on va voir chez les animaux, là, il y a tout un tas de conceptions de l'intelligence très différentes. Y compris, par exemple, si on va voir les fourmis, par exemple, ben, une fourmi, c'est très bête, mais une fourmilière, c'est très intelligent. La fourmilière, elle est très intelligente, elle, au sens où elle arrive, la fourmilière, à résoudre des problèmes complexes. Et elle le résout en tant que fourmilière. Par exemple, construire des nids très compliqués, avec des architectures très compliquées, avec déménager les larves au bon moment quand la température change plusieurs fois dans la journée, d'une chambre à une autre, avoir conçu les chambres, avoir conçu l'aération des chambres, etc. Enfin, conçu. Justement, ça montre toutes les limites qu'il y a autour des mots comprendre, concevoir, etc. Le résultat est là. Il n'y a certainement pas de conscience de la fourmilière, mais là encore, la conscience. C'est un peu une cerise sur le gâteau dans tout ça. Par contre, la fourmilière résout tout un tas de problèmes très compliqués qu'elle a à résoudre. Et dans ce sens-là, elle est tout ce qu'il y a d'intelligent. J'essaye de dire que l'intelligence, c'est vraiment un espèce de concept, à mon avis, extrêmement multiforme. Et le sens où on l'entend pour l'intelligence humaine déjà est très restreint et lui-même est déjà multiforme, quoi. L'intelligence artificielle a toujours deux buts qui sont, un, essayer de construire des modèles de l'intelligence naturelle, animale, humaine, et suivant les formes de cette intelligence. Donc on peut s'intéresser à la parole, à la formulation de la parole, la compréhension de la parole, on peut s'intéresser au sensorimoteur comme on le fait en robotique, on peut, etc., etc. Donc le premier axe, c'est essayer de produire des modèles qui permettent de mieux comprendre certains aspects de l'intelligence naturelle. Et puis le deuxième axe, qui est un axe, je dirais, un peu moins scientifique et un peu plus technologique, c'est essayer de construire des machines qui soient moins bêtes. Il y a du boulot. Il y a un chercheur en intelligence artificielle. Il y a une vingtaine d'années en arrière, qui a dit à partir du moment où on arrive à spécifier précisément quel est le problème, ben en gros c'est plus un problème d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que si on a réussi à spécifier parfaitement quel est le problème, on a sa réponse et on est capable de la mettre dans une machine. Mais justement un problème par exemple sensorimoteur, ben on n'arrive pas à spécifier quel est le problème de manière parfaite et exhaustive. L'exemple des échecs est peut-être un bon exemple parce que Vous avez des programmes qui, en gros, sont au niveau des du champion du monde d'échecs. Par contre, il n'existe pas de robot qui joue aux échecs, c'est-à-dire qui s'assoit devant un échiquier et puis qui manipule les pièces avec ses mains en les regardant avec ses yeux. Et pourquoi ils n'existent pas ? C'est pas parce qu'on veut pas les fabriquer, c'est parce qu'on ne sait pas les fabriquer. On pourrait, encore une fois, on pourrait contraindre l'environnement si on choisissait parfaitement bien la forme du jeu d'échecs, la position du jeu d'échecs, etc. On arriverait à faire un manipulateur qui arrive à manipuler à peu près les pièces. Mais un robot qui puisse s'asseoir devant n'importe quel type de jeu d'échecs avec, on en voit avec des pièces qui sont, qui ressemblent à des soldats de plomb ou des choses comme ça, et puis qui se débrouille avec ça, ben, en gros, on sait pas faire. Alors que n'importe quel enfant de plus de 5 ans ne sait absolument pas jouer aux échecs. Par contre, il se débrouille très très bien pour déplacer les pièces sur l'échiquier. Quelle que soit leur forme, quelle que soit la couleur de l'échiquier, quelle que soit la lumière, quelle que soit, etc. Donc il faut bien comprendre la différence de nature entre ces deux problèmes. D'un côté, on a un problème qui est le jeu d'échecs, qui est un jeu purement logique. La difficulté essentielle vient de l'arborescence des possibilités qui peut être très difficile à explorer. Et puis, un autre problème qui est un problème dans le monde physique, qui est percevoir les pièces, manipuler les pièces, déplacer les pièces, et sur lequel il y a des millions de choses qui sont à prendre en compte, comme l'éclairage, la couleur, la forme, le poids, que le jeu d'échecs soit en pente ou je sais pas, il peut se passer plein de choses. Et en gros, on va se débrouiller et on se débrouille justement ben, en prenant des décisions sans être totalement informé, mais en faisant avec au mieux avec les informations qu'on a. Et c'est là que intervient l'incertitude et qu'on espère que les probabilités nous fassent progresser de ce côté-là.